Eh bien, bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur LGC avec Marie-M. Et donc, ce soir, je vais expérimenter une nouvelle formule puisque j'ai, je crois, normalement compris comment fonctionnait le chat. Ça faisait 3-4 fois que j'avais activé le chat en direct et j'avais pas encore compris comment ça fonctionnait. Donc, vous pouvez utiliser le chat. Logiquement, je vais essayer de vous faire un petit message. Bonjour à tous pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc vous pouvez faire des essais si vous. Voilà, donc si vous avez des questions, et j'espère que vous en aurez parce que je suis là pour vous ce soir pour répondre à vos questions. Voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon parcours à travers un thème que j'ai appelé surfer sur les vagues de la vie. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ah voilà, le petit mot sur le chat. Super. Alors Marie, ça s'écrit avec un Y, hein. J'y tiens un mot Y, hein. Je dis tout le temps, je sais bien que je ressemble beaucoup à Marie, mais moi c'est Marie Y. Voilà, donc bonsoir Jody. Bonsoir, c'est sympa en fait, hein, cette chose-là. Super, ben je vous laisse arriver alors. Donc, alors il y a aussi le forum. Pour ceux qui ont l'habitude de poser les questions sur le forum, j'irai faire un tour s'il y a des questions. Et puis sinon, ben voilà, oui, donc Sylvie, Steph, bonsoir. C'est super. Alors, oui, j'étais donc en train de dire. Désolée Marie. Pourtant, c'est écrit sur toutes mes émissions, hein, animées par Marie avec AY. Et c'est mon vrai prénom, hein, il est écrit tel que sur ma carte d'identité, hein. Je vous le dis. Voilà, alors, surfer sur les vagues de la vie. Voilà, c'est un petit peu ce nouveau, cette nouvelle, je dirais, posture de vie que j'ai adoptée depuis quelques mois maintenant, et qui, comment dire, bah pour ceux qui me connaissent pas, qui me découvriraient ce soir, mais je ne pense pas, on ne sait jamais, mais voilà. Donc depuis, je vais faire un petit historique, hein, depuis. Le mois de décembre 2017, en fait, parce que ça s'est passé très, très spécifique, enfin, très spécialement, ça s'est passé le 31 décembre 2017. C'était rigolo, hein. Je me suis réveillée le 1er janvier, avec vraiment cette certitude, quoi. Je vends tout, je quitte tout, mon logement, je vends tout ce que j'ai et je pars à l'aventure pour vraiment vivre cette expérience de co-créer avec la vie, avec l'inconnu et de mettre en action tout ce que j'avais découvert ces 3 dernières années pendant lesquelles j'ai vraiment vécu un processus initiatique comme si j'avais fait un reset, réinitialisé tout à zéro. Et donc voilà, ça pour vous dire que c'est pas une décision que j'ai prise, ça a été vraiment un élan, quelque chose qui s'est imposé à moi comme une évidence. Et qui a été, comment dire, l'aboutissement de tout ce processus. Alors, je vais refaire un petit historique. Donc, en 2015, suite à un burn-out, Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un burn-out. On dit souvent qu'un burn-out est professionnel, mais en fait, il peut être tout à fait vécu sur un plan privé. Et moi, c'était général. C'était professionnel, privé, la totale. Et l'organisme est tellement sujet au stress, à un stress permanent, qu'en fait, il se retrouve littéralement chaos, à plat, vidé. Voire même quand il y a vraiment des burn-out extrêmes, on peut plus se lever, on peut plus marcher, on peut plus carrément, il y a plus d'énergie. Donc moi je vis ce burn-out à un degré moyen parce que je pouvais quand même me lever, marcher, mais c'était difficile, j'étais quand même bien lessivée. Mais en tous les cas, j'étais dans un tel état de stress et ben que j'étais en ce qu'on appelle en acidose, hein, c'est-à-dire que un corps complètement acidifié. Et c'était pas faute d'avoir une bonne hygiène alimentaire parce que j'avais déjà éliminé tout un tas de choses dans ma vie en termes de nourriture liées à des allergies, à des intolérances. J'avais déjà arrêté tout un tas de choses. Mais là, en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans plus rien pouvoir avaler. À tel point que je me suis mise au jus de légumes. Mais surtout, ce que ça a généré, ce burn-out, c'est que ça m'a obligée de faire un bilan de ma vie, de regarder vraiment ce qui se passait, de me regarder en face et de me dire la vérité, qui était en fait, dans ma cocotte, c'est vrai que tu te trahis pas mal quand même. Et donc, je me suis aperçue que je me mentais, je me trahissais, et que donc j'ai décidé à ce moment-là, donc en février 2015, de vivre en amour avec moi-même à 100% et de ne faire plus que ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait vibrer. Et j'ai donc pris un papier, un crayon et j'ai commencé à faire une petite liste, mais il y a quand même des choses qui sont arrivées comme une évidence. Et puis, même si je ne les avais pas vraiment pensées, la vie, elle s'est chargée de m'apporter les informations. Et c'est comme ça que bah, d'abord, j'ai commencé par virer ma chef, parce qu'à l'époque j'avais repris un travail salarié, ça a juste duré un an. Ça faisait quand même 15 ans que je développais mon activité. Et quand je suis arrivée dans le Vaucluse, donc j'avais repris un travail salarié en tant que chargée de mission auprès des femmes victimes de violences conjugales. Donc j'étais dans la relation d'aide et puis un travail quand même assez énergétivore, je dirais, et puis un cadre très énergétivore. Mais bon, c'est bien moi qui l'avais co-créé et que j'ai bien perçu les endroits où finalement ça m'a fait faire des prises de conscience et ça m'a permis d'ouvrir des espaces en moi que j'ai laissé fermer en fait. Hein. Donc tout est parfait, hein, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème. J'ai accueilli la solution, mais j'ai quand même fait alliance avec moi-même. Et ce moi-même, ce n'était pas le moi-même que j'avais dans ma tête. C'était vraiment un moi-même que je ne connaissais pas. Donc j'ai accepté d'aller vers l'inconnu en tous les cas, à partir de ce moment-là. Donc, la première chose qui est arrivée à moi, c'est une formation en coaching. Coaching intuitif, coaching de l'être. Et je me disais, ben, ça peut être super sympa parce que je sentais que j'avais besoin d'aller vers un renouveau. Et que, en plus de ça, le coaching pouvait m'aider, ne serait-ce que moi-même, à reprendre pied et peut-être à restructurer une nouvelle posture professionnelle. Et puis, là, donc j'ai découvert une formation super intéressante qui envisageait le coaching vraiment sur tous les plans de l'être. Et puis j'ai entamé donc une formation comme consultante intuitive puisque j'avais une intuition débordante que j'avais envie d'aller rencontrer pleinement et de pouvoir utiliser vraiment déjà professionnellement c'est vrai, mais aussi pour moi dans ma vie j'avais envie de vraiment mettre en pratique mon intuition pour pouvoir et ben surfer sur les vagues de la vie déjà à l'époque. Voilà. Et puis il y a eu une autre chose sur laquelle je me suis inscrite parce que ça s'est aussi posé comme une évidence pour moi. Je me suis inscrite dans ce qu'on appelle un processus pranique qui consiste donc à arrêter la nourriture solide pour se nourrir de prana, autrement dit d'énergie lumière. Alors donc cette expérience, j'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres émissions, donc je vais pas vous la raconter ici, sauf s'il y a des questions qui se posent plus précisément. Mais cependant, cette expérience, elle a été mais littéralement initiatique pour moi, et elle m'a fait faire un véritable voyage à travers mes cellules et m'a fait faire un nettoyage en profondeur, mais alors totalement inattendu. En 9 mois, j'ai perdu 18 kilos, mais c'était pas seulement des kilos de graisse que j'ai perdu, c'était 18 kilos d'émotions, 18 kilos de peur, 18 kilos de croyances limitantes, de dogmes, d'enfermement. Alors c'est sûr qu'avec ce nettoyage en profondeur, toutes mes sensations sensorielles et extrasensorielles se sont développées. Mon intuition que j'apprenais à canaliser avec la méthode de la lecture intuitive, dont je parle beaucoup en ce moment, ben, c'est décuplé, mon esprit s'est clarifié, éveillé, mon cœur s'est illuminé et agrandi. Et je me suis mise à percevoir la vie et le monde d'une façon beaucoup plus unifiée, en tous les cas de plus en plus unifiée. Et je me suis mise à percevoir clairement le fonctionnement de la loi de la vie, que j'appelle la loi d'amour. Alors, j'y reviendrai un peu plus tard. Et en fait, cette expérience pranique, elle a totalement bouleversé ma vie. Elle a fait exploser toutes mes croyances, tous mes repères, et en premier lieu au niveau professionnel. Ça faisait 15 ans que j'accompagnais des personnes à réaliser leurs objectifs, pensant que c'était fondamental d'avoir des objectifs de changement, de réalisation de soi. Et d'un seul coup, avec le processus que je m'étais donné à vivre et ce voyage à l'intérieur de l'inconnu, eh bien, je découvrais que en fait, la loi de la vie, la loi de l'amour me montrait exactement l'inverse. Et je m'apercevais que, en fait, plus je force vers un but, plus j'en cultive le manque, et plus j'obtiens le contraire. En clair, plus je cours après moi, plus je me coupe de ce que je suis vraiment, plus je me pose des objectifs de changement, bah finalement, plus je me coupe de ce qui est déjà là et de la solution qui est prête à émerger. En fait, je découvrais peu à peu que les fondements du coaching auquel je venais de me former étaient totalement contraires à la loi de la vie, et que ces fondements avaient plutôt tendance à nourrir la dualité et non l'être que je suis vraiment. Par exemple, le fait de développer la pensée positive ou de découvrir sa mission de vie sont des supercheries qui nous enferment plus qu'ils nous libèrent. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'il nous propose de fonctionner avec notre mental, qui juge et sépare les choses. Cultiver des pensées positives alimente le fait qu'il existe des pensées négatives et donc alimente la dualité. Pour être heureux, enfin c'est les croyances qu'on nourrit, je dois être amour et donc positif, ce qui implique que si je ne suis pas amour, alors je ne suis pas positif et donc je ne suis pas OK. En fait, on n'arrête pas de se juger. Et on continue de se couper de certaines parties de nous que l'on juge inacceptables. Donc le coaching qui est fondé sur le positif aurait une tendance finalement à nous couper du négatif. Alors je vois qu'il y a plein de choses qui arrivent en même temps sur le chat. J'y reviendrai après parce que je peux pas tout faire en même temps. Donc je finis simplement ma pensée et je reviens à ce que vous me dites. Voilà, donc il y a une croyance, par exemple, qui dit, qui nous dit que l'amour est positif. Soyons positifs, soyons amour. Mais en fait, l'amour n'est absolument pas positif. L'amour est. L'amour ne juge pas. Il englobe tout ce qui est et il aime tout ce qui est. J'ai découvert que j'avais et que nous avons d'une façon générale une très mauvaise représentation de ce qu'est l'amour et même de ce qu'est le bonheur en fait. Hein. On veut toujours tout enfermer avec notre mental, toujours tout comprendre. Mais l'amour n'est pas tout rose, n'est pas tout doux et n'est pas tout calme. L'amour est vivant. Et il est tout ce qui est. Et il prend tous les visages pour nous parler et entrer en conversation intime avec nous. Car le monde extérieur ne parle que de nous-mêmes. Il est l'expression de l'amour qui se cherche à travers nous. Et tout est synchronicité. Et lorsque j'ai compris ça, alors je ne pouvais plus me voir comme une victime. Je ne pouvais plus que m'émerveiller devant la magie, la justesse et la perfection de la vie. Parce que tout ce que me proposait la vie, tout ce que je jugeais comme étant des épreuves, des difficultés ou des contraintes, était juste en fait exactement ce qu'il me fallait pour que je puisse m'ouvrir à la vie, à l'amour en moi et épanouir mes dons, mes talents, mes qualités d'être. Voilà, un autre exemple également dans ce que j'avais trouvé dans le coaching et qui est en fait, pareil, un gros mensonge, hein, trouver sa mission de vie. Il y a un super commerce qui se fait autour de ce truc-là, mais c'est du mensonge. Ça nous enferme dans une vision étriquée de nous-mêmes car notre mental n'a pas accès à notre soi. Comment pourrait-il savoir ce que nous sommes et pourquoi nous sommes faits ? La mission de vie, c'est vraiment un truc juste pour sécuriser notre mental et rien d'autre. Mais en fait, ça a juste pour effet de nous enfermer en fait. Voilà quelle est ma mission de vie et ça nous fait certainement passer à côté de ce que nous sommes véritablement. J'entends souvent dire des personnes, moi je sais, je suis là pour aider les autres. Mais ça me fait vraiment sourire parce que personne n'est là pour aider personne en fait. Nous ne pouvons aider que nous-mêmes. Nous sommes là pour épanouir notre âme, notre nature profonde, notre être profond. Et c'est parce que nous épanouissons cette partie de nous, en partageant nos dons et nos qualités d'être, que nous devenons alors aidants et éclairants pour les autres. Nous n'avons rien à apprendre des autres. Nous n'avons rien à attendre de personne. Croire que nous sommes là pour aider les autres implique que, éventuellement, nous croyons que les autres ne sont pas assez intelligents pour s'aider eux-mêmes et qu'ils ont forcément besoin de nous. Enfin, bref, voilà, j'ai pris conscience d'un certain nombre de choses que j'avais appris et tout se déconstruisait au fur et à mesure que je continuais ce voyage à l'intérieur de moi avec ce processus pranique qui est vraiment un processus qui permettait à la lumière vraiment de descendre dans la matière. Et donc, quand la lumière commence à éclairer, forcément, elle éclaire les ombres et elle éclaire tout ce qui est pas juste, tout ce qui est pas la vérité. Et quand j'ai fait toutes ces prises de conscience, à un moment donné, je pouvais plus travailler comme coach. Je pouvais plus travailler comme je travaillais auparavant. Tout s'effondrait, tout explosait, et en fait, j'ai tout envoyé balader, quoi. Et je me suis retrouvée un peu comme une âme en peine à un moment donné, et où je me suis dit, mais qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, je ne savais plus très bien ce que j'allais faire de ma peau. Et c'est à cette période-là que la Web TV du Grand Changement est arrivée dans ma vie. Et c'est un peu arrivé comme ça, servi sur un plateau d'argent, parce que c'est pas du tout moi qui l'ai voulu, c'est pas moi qui l'ai cherché. On m'a fait la proposition et j'ai accepté sans savoir où ça allait me mener. Tout ce que je savais, c'est que j'allais certainement m'éclater en faisant ça. C'était aussi un petit... ça me titillait, ça me faisait peur, parce qu'à un moment donné, m'exprimer comme ça devant des personnes sans les voir, enfin, c'était un petit challenge, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait « vas-y, 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 vas-y ». Mais bon, à cette époque-là, j'étais vraiment perdue et quelque part, c'était parfait comme ça aussi. Et je me laissais faire car je sentais qu'il fallait que je me laisse mourir, que je laisse partir une partie de moi, une partie qu'il fallait que je laisse partir mon ancienne peau, mes anciens schémas de fonctionnement, pour vraiment laisser advenir le nouveau. Et le nouveau, ben, c'était complètement inconnu, je ne savais pas ce que c'était. Et donc j'étais vraiment dans cette conscience d'arrêter de courir après le sens de ma vie et de ce que je croyais être ma mission de vie. Donc j'ai vraiment accepté de ne plus rien savoir pour tout simplement me laisser traverser par le sens de la vie, c'est-à-dire accueillir ce qui était là, simplement. Et ce qui était là à ce moment-là, ben, c'était aussi beaucoup d'émotions, de tristesse, il y avait plein de séparations dans ma vie, c'était douloureux, mais j'acceptais de vivre ces choses-là et j'étais vraiment dans un total lâcher prise, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment fait la découverte de la puissance de l'accueil et que j'ai compris, je le savais déjà, mais que combien effectivement. Il n'y a pas de problème et qu'il n'y a que des solutions. Et d'ailleurs, à cette époque-là, sur LGC, j'ai fait plein d'émissions sur le thème de la puissance de l'accueil. Donc, vivre l'instant présent, c'était plus une théorie pour moi, c'était devenu vraiment une expérience quotidienne. Et puis, au bout du compte, au bout de 2 ans, le processus pranique dans lequel j'étais engagée, corps et âme, je dirais, m'a totalement réconciliée avec la nourriture et toutes les formes de nourriture, je dirais. Et surtout avec ma liberté d'être, quoi. J'ai intégré que l'amour inconditionnel ne peut se vivre qu'avec soi-même, en accueillant et en aimant chaque partie de soi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelle liberté ça représente. On peut être tout ce que nous sommes, sans jugement aucun. Il n'y a nulle part où aller, pas d'objectif à réaliser, pas de résultat à obtenir. Tout est déjà là, à nos pieds, il n'y a qu'à cueillir. C'est mon petit jeu de mots de la soirée. Il n'y a qu'à cueillir, il n'y a qu'à cueillir. Mais c'est vraiment ça, quoi. Donc, tout est à notre service dans la vie. La vie nous aime et tout ce qu'elle nous amène, c'est juste pour notre bonheur. C'est juste pour nous ouvrir, nous donner l'opportunité de nous ouvrir à la meilleure version de nous-mêmes, à notre pleine puissance, à qui nous sommes. Donc entre 2015 et 2018, ça fait 3 ans maintenant. Et ben effectivement, j'ai complètement muté. J'ai rencontré une personne dernièrement en consultation qui me disait, et peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais c'est pas la seule à me l'avoir dit. Elle me disait, mais je te suis depuis tes débuts sur LGC, et elle me dit, mais tu t'es complètement transformée, mais même physiquement, Et on a l'impression de plus avoir affaire à la même personne. Et c'est vrai, je crois fondamentalement que je ne suis plus la même personne. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me laisser porter par la magie de la vie et de surfer sur les vagues. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment font les surfeurs pour surfer, mais ils n'évitent pas les vagues. En fait, ils entrent dedans. Et c'est vraiment ça, c'est surfer sur les vagues de la vie, c'est accepter d'entrer pleinement dans la vie, de se laisser traverser par la vie, de se laisser traverser par tout ce qui est là. Arrêter de juger les choses, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est négatif, ça c'est positif, ça c'est bien ou mal, enfin, de les cliver, c'est tout est juste, tout est OK, quoi. Et en fait, je m'aperçois depuis ces derniers mois où finalement, surfer sur les vagues, ça m'a amené à voyager à l'étranger, mais ça aurait pu ne pas m'amener à voyager. Parce que le seul véritable voyage, il est toujours intérieur. En fait, notre être, il est toujours au même endroit. Mais là, pour le coup, ça m'a amené à voyager. Je suis allée aux Canaries, en Inde. En ce moment, je suis à Palerme, en Sicile. Et puis, il y a l'Australie qui s'ouvre à moi. Donc, peut-être que je vais aller en Australie d'ici le mois de septembre. En tous les cas, je vais passer 3 mois d'été avec vous. Je vous en parlerai après parce que je fais des propositions et j'avais envie de vous en parler. Mais c'est ouais, c'est être vraiment dans l'observation de ce qui émerge, de ce qui est là. Et de saisir vraiment les opportunités, mais tout est opportunité. Et c'est vraiment ça, cette loi d'amour que j'aime tant pouvoir transmettre, pouvoir expliquer, dont j'aime pouvoir témoigner, c'est tout est là. Tout est énergie. Nous sommes tous reliés. Et tout est là, quoi. Nous vivons dans une abondance infinie. Et on est malheureux à courir après nous-mêmes, à courir après des objectifs, à courir après l'argent, après tout un tas de réponses à l'extérieur de nous alors que tout est là. Ça fait quelques années que je l'entends dire, que je le savais, que je le comprenais avec ma tête, avec mon mental, mais qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu une expérience intime, une expérience réelle, quoi. On peut vraiment tiens tout à l'heure je suis partie sur la plage. Il fait pas très beau à Palerme en ce moment. Je crois que c'est un petit peu comme en France. Il fait un peu frais. Ceci dit, quand on s'approche de la mer, il y a quand même pas mal de gens qui sont là, qui sont sur la plage, qui se font bronzer, qui se reposent, enfin etc. Des jeunes qui jouent au ballon. Enfin bon bref. J'étais un peu fatiguée. Je travaille beaucoup en ce moment parce que j'ai fait des conférences à Palerme et il s'avère que une conférence en a généré une autre, puis une autre. Je m'attendais pas du tout à ça. Et derrière, on m'a beaucoup sollicitée pour des consultations, des entretiens. Donc, je suis beaucoup sollicitée, que ce soit par des Siciliens ou par des Français actuellement, par Skype. Donc, je travaille beaucoup. Et je me suis dit, je vais aller me promener en bord de mer et pour aller me reposer sur la plage. J'ai même pas pris mon maillot de bain hein, parce que vu qu'il fait un peu frais, je me suis dit, voilà. Donc, je suis arrivée là-bas. Je me suis allongée sur la plage et il y a 3 jeunes qui sont arrivés près de moi et qui ont commencé à jouer au ballon et je n'arrêtais pas de me recevoir le ballon dans la tête quoi. Et en fait, j'arrivais pas à me laisser aller, à sombrer. Et d'un seul coup, j'ai pris le ballon, je leur ai renvoyé en leur disant, en français, bien entendu, ils n'ont absolument pas compris, hein, parce que je ne parle pas italien. Et comme quoi, ils pouvaient, ça serait gentil qu'ils puissent aller jouer ailleurs, parce qu'ils m'empêchaient de me reposer. Et puis j'ai entendu ce que je leur disais, j'ai retranscrit ça en langage d'amour, j'ai remplacé le vous par je et j'ai pleinement entendu, accueilli le fait que je m'empêchais de dormir, que je faisais beaucoup de vakram à l'intérieur, parce qu'en fait, plutôt que de me reposer et de me laisser véritablement aller dans les bras d'un potentiel sommeil, eh ben j'étais en train de penser à l'émission de ce soir. Donc eux, ils étaient simplement là pour faire miroir à ce vakram intérieur dans lequel j'étais. Je fais OK. Et puis, je rigole doucement, je prends conscience de ça, j'accueille. Et juste à ce moment-là, il y a une personne qui vient et qui me sort de ma léthargie, qui me propose une petite pancarte à lire que je ne pouvais pas traduire, mais je comprends qu'elle faisait des massages. Et en fait, elle est venue me faire pendant une demi-heure massage pieds, dos, enfin bon, bref, je me suis fait petite relaxation. Alors là, c'était juste génial. J'avais besoin de me relaxer, de me... Et pouf, c'est arrivé comme par magie. Juste génial. Voilà, donc et c'est ça la vie. C'est comment ça nous emmène toujours dans cette abondance qui est là. C'est vrai que j'aurais pu, comment dire, j'aurais pu m'énerver contre ces jeunes, reprendre mes affaires et partir en colère. Non, j'ai simplement accueilli la prise de conscience que je venais de faire et je me suis laissée faire et pouf, il y a cette femme qui est arrivée et c'était juste magique. Voilà. Alors, je vais arriver parce que je vois qu'il y a plein de choses qui sont... Ouverture des nadis, jaillissement du prana en abondance. Oui, c'est possible. Alors, c'est quand on touche le fond, on se demande pourquoi tout ça et que la question est déjà là, réponse et la solution nous viennent. Début d'éveil et le voile s'évapore, l'ouverture de l'âme. Ouais. La confusion du faire pour étouffer la clarté de l'être. Ouais. Heureuse de vous entendre parler du coaching ainsi, pour moi c'est une manipulation. Mais ça peut être une manipulation, c'est comment on s'auto-manipule en fait, hein, parce que c'est vrai que le risque, après on peut faire aussi des choses en conscience, hein, mais c'est vrai qu'on entend à tout va, pensée positive quoi. Donc on se surprend en train d'être négatif, et d'un seul coup, non, non, je vais être positif, donc qu'est-ce que je fais quand je dis non, non, je vais être positif? Je me coupe de mon émotion, je me centre sur la pensée négative, sauf que l'émotion, elle est toujours là, et je vais, comment dire, manipuler pour anesthésier mon émotion, et aller potentiellement chercher une réponse à l'extérieur, alors que accueillir l'émotion présente et accueillir pleinement cet état que l'on juge comme étant négatif, mais cet état que l'on juge comme étant négatif, c'est en fait une partie de soi qui a besoin d'être accueillie, qui a besoin d'être... Mais on nous dit tellement, puis c'est tellement, je veux dire, la tristesse, la peur, la colère, c'est tellement des émotions qui sont bannies de notre société, qu'elles sont inacceptables pour les autres, elles sont inacceptables pour soi-même, et sous prétexte d'être amour, et ça c'est vraiment tous les travers du développement personnel, mais aussi de beaucoup de voies spirituelles, hein, où à un moment donné, il faut être amour, donc si on n'est pas amour, et c'est comme ça qu'on se coupe de soi-même. Mais être amour, c'est accueillir tous ces aspects de nous. Et qu'il n'y a aucun aspect qui sont négatifs. Il y a des aspects qui sont malades. Il y a des aspects qui sont blessés. Et qu'ils ne demandent qu'à être accueillis. Et moins on les accueille, plus on les juge, plus on les rejette. Et plus ils vont venir nous harceler et, comment dire, frapper à notre porte pour qu'on leur ouvre la porte. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir, accueillir toutes ces parties de nous-mêmes comme nos propres enfants quoi et de les embrasser d'en prendre soin de les accueillir et quand on commence vraiment à s'aimer de façon inconditionnelle et ben oui c'est vraiment la liberté et la légèreté c'est juste super on n'a plus rien à prouver et surtout pas à soi-même parce que c'est ça le plus grand piège hein. C'est en fait on continue à vouloir se prouver à nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'on fait dans le coaching en se fixant des objectifs de réalisation? Eh ben, on se donne des défis on s'enferme en fait. Et on se coupe de parties de nous-mêmes. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des élans. Je différencie vraiment ce qui est de l'ordre de l'objectif mental, de je veux mentalement arriver à, et l'élan qui est là. Et je parle de la volonté du cœur et de la volonté du mental. C'est pas du tout la même chose, quoi. Mais la volonté du cœur, elle nous amène toujours vers l'inconnu et le plus grand que soi. Donc, absolument, l'amour transcende toutes les vibrations, même celles duelles du positif et négatif. Ben oui, bien sûr, bien sûr. L'amour est un. L'amour est un. Et l'amour n'est pas positif. Alors ça, c'est vraiment, on me disait ça encore cet après-midi. Bon, soyons positifs, soyons amour. Mais non, être amour, c'est accueillir tous les aspects de soi. Et il n'y a rien de négatif. Comme il n'y a rien de positif. Voilà. Donc ensuite, résonance de Schumann entre 1000 Hz et 1200. On franchit un palier vibratoire. En ce moment, les amis, notre corps subit un rajeunissement grâce à ces fréquences. Ah d'accord, bah, écoute, merci Emmanuel. On me dit souvent que j'ai rajeuni, ce que je trouve aussi quand je me regarde dans la glace. Alors, Delphes, le processus pranique, peut-on dire que c'est comme de l'alchimie, une transmutation de la conscience dans le corps humain? Oui, c'est vraiment ça. C'est le processus pranique qui permet juste à la lumière de descendre dans la matière, en fait. Mais ça, on peut c'est un processus qui est naturel parce que c'est tout simplement le processus d'incarnation. Le processus d'incarnation, c'est simplement permettre à notre énergie subtile, à l'énergie lumière, d'intégrer la matière. Et en fait, ben, la lumière, en descendant dans la matière, elle transcende nos cellules, elle nourrit nos cellules, et en fait, elle transmute tout. La lumière, c'est l'énergie d'amour. La lumière, c'est ce qu'on a, c'est en sanskrit, on appelle ça le prana. C'est l'énergie de vie, la force vitale, c'est ce qui existe dans toute chose dans l'univers, c'est l'énergie d'amour. Alors bien sûr, la lumière, ça n'a rien à voir avec la lumière, la luce, hein, celle qui éclaire. C'est une énergie, en fait. Mais c'est tout à fait ça, c'est vraiment un processus alchimique, je dirais presque qui n'a rien à voir avec le fait de manger ou pas manger, parce que ce processus alchimique qui nous fait arriver à l'état pranique, qui est un état d'être au monde, un état d'amour en fait, hein, où on a vraiment cette conscience élargie que tout est juste et parfait. Et que. Et que le monde n'est pas duel. Ça, c'est notre dimension matière qui voit les choses coupées en deux. Mais lorsqu'on commence vraiment à accepter ce processus d'incarnation, et pour accepter ce processus d'incarnation, eh bien, il s'agit d'accepter de ressentir, parce que je veux dire, se laisser traverser par l'amour, par la vie, et donc par les émotions, par les sensations, etc. Bah, au départ, c'est douloureux, c'est ce qui fait que tant de gens n'ont pas envie de s'incarner. C'est parce qu'à un moment donné, c'est douloureux, mais quand c'est transcendé, c'est transmuté, et à ce moment-là, on éclate toutes les limites, quoi. Et notre corps s'agrandit. Notre corps s'agrandit véritablement. C'est-à-dire que on peut percevoir un corps de matière limité, on peut le toucher effectivement, mais notre corps énergétique bah, ça grandit et c'est comme ça qu'on peut percevoir effectivement quand quelqu'un est véritablement est de plus en plus incarné, on va dire de lui qu'il a du charisme, qu'il rayonne, voire même qu'il éclaire les autres. Alors j'aime bien aussi préciser que il y a une différence entre celui qui brille. C'est-à-dire qu'il reflète la lumière, c'est-à-dire que celui qui brille ne va pas forcément se laisser transcender par la lumière. Il va souvent briller par son ego. Celui qui est vraiment transcendé par la lumière, quelque part, il est transparent. Et c'est à ça qu'on peut aussi reconnaître les véritables maîtres, les véritables guides. Et en fait, il y a énormément de maîtres et de guides qui sont transparents et qui existent dans le commun des mortels et qu'on ne voit pas justement parce qu'ils sont transparents. Alors, alchimie, transformation, ne serait-ce pas plutôt. Alors, c'est totalement cela des films. C'est l'esprit qui infuse à nouveau nos corps, qui les transmute. Oui, alors, il y a des discussions entre vous. Donc, oui, Delphes, la société nous demande de fonctionner à l'envers, en fait, totalement. On est complètement structuré, éduqué à l'envers des lois de la vie. Donc, il s'agit vraiment c'est vraiment un travail de déséducation. C'est pour ça que moi j'aime bien parler de dépouillement personnel et non pas de développement personnel. Parce qu'il s'agit vraiment de se dépouiller pour laisser émerger. Parce que dans le développement personnel, voire même, enfin, et toutes les méthodes de développement personnel, ben, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher à se remplir. Alors avant, on était dans une image négative, après on rentre dans une image positive, mais on est toujours dans des histoires d'images et on se remplit parce qu'à l'intérieur, ça continue à être vide. Et l'idée, c'est se dépouiller de toutes les images, qu'elles soient négatives ou positives, et de laisser émerger notre véritable nature. Et notre véritable nature, elle est totalement inconnue. Rien en nous ne peut savoir à quoi elle ressemble. Il faut vraiment aller dans l'expérience et se laisser agir, traverser par la vie pour permettre à cette nature d'émerger et pour la rencontrer. Et elle est infinie, donc en fait, ce n'est jamais fini. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de « on s'agrandit à l'intérieur ». Et c'est un voyage merveilleux et infini, en fait. Donc c'est pour ça que ça me fait rire quand on parle de découvrir votre mission de vie, mais c'est ridicule, c'est vraiment avoir une vision étriquée de ce que nous sommes. Donc, ouais. Ouais, une déstructuration totale. C'est vraiment ça en fait. La déstructuration, c'est. Je pense qu'il y a vraiment une partie parce qu'il y a des étapes. On ne peut pas déstructurer un ego qui n'est pas structuré. C'est-à-dire que toute la première partie de notre existence, on se construit en tant que personne. Le problème, c'est que je suis pas sûre que notre éducation permette cette structuration de l'ego qui le mette véritablement à sa juste place, c'est-à-dire au service de l'être. Mais nous sommes une personne. À partir du moment où on arrive sur Terre, on entre dans une forme pensée, on nous donne un nom, on hérite de tout un tas de mémoires émotionnelles de nos aïeux. Et donc, en fait, on va entrer dans cette forme pensée qui fait avec une identité, un nom, des papiers d'identité, et on va se structurer dans la matière. Mais l'idée, à un moment donné, c'est de transcender cet ego et de transcender les limites de notre personnalité, parce qu'on va créer une personnalité, mais en fait, qui n'est pas nous. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que l'ego est à exterminer, qu'il faut l'abattre à tout prix, que c'est la méchante partie de nous-mêmes. Mais en fait, notre ego, il est malade parce que souvent, il n'a pas été structuré de façon à être au service de notre être. Et donc, cet ego, il a besoin d'être accueilli, d'être aimé déjà, d'être réparé quelque part pour pouvoir retrouver sa juste place et son utilité. Nous avons besoin d'un ego. Nous avons besoin d'un mental. Par exemple, hier soir, je faisais un atelier découverte sur la méthode de la lecture intuitive et j'explique, mais notre intuition s'exprime aussi à travers notre mental. C'est grâce à notre mental que nous allons pouvoir rendre concret et intelligible les informations que nous apporte notre intuition sur le plan de l'imaginaire. Donc, si nous n'avons pas de mental, ben, on va être bien handicapé pour pouvoir faire ces traductions verbales. Le mental sert à nous exprimer, à nous rappeler de tous ces actes quotidiens qu'on répète tous les jours. Enfin, il nous est bien utile, notre mental. Donc, il s'agit vraiment d'arrêter de juger ces parties de nous. Ces parties de nous, elles sont malades. L'autre jour, dans une émission, je parlais du fait d'être malade mental, mais quelque part c'est ça. Mais donc prenons soin de notre mental, prenons soin de nos émotions, prenons soin de toutes les parties de nous qu'il s'agit d'autoriser à exister et non pas de chercher à abattre. Et donc cette déstructuration de l'ego, on n'a pas à chercher à la faire, on n'a pas à vouloir quoi que ce soit. Elle se transcende. À partir du moment où on se laisse traverser par la vie, où on se laisse traverser par le sens de la vie, c'est un travail qui se fait tout seul. Tout seul. Et donc, c'est à chaque fois, parce que la vie est une succession de morts-renaissances, en fait, et c'est vraiment accepter de mourir à soi-même. La mort n'est pas le contraire de la vie. La mort fait partie intégrante de la vie. C'est ce qui vient mettre la vie en mouvement. D'ailleurs, il s'agit suffit de regarder la nature pour s'apercevoir combien dans la nature il y a ces processus de mort-renaissance et que la vie démarre à partir de ce qui est mort, qui vient nourrir la vie et qui permet la transmutation et qui permet etc. Tout ce qui meurt vient nourrir l'abondance de la vie qui prospère à chaque instant. Et en fait, c'est exactement quand on commence à laisser circuler la vie en nous, à laisser circuler l'amour, à laisser l'amour se donner à travers nous, mais c'est une abondance infinie. Et ce travail de transmutation et de déstructuration, qui en fait n'est pas une déstructuration, mais pour moi une transmutation en fait, hein, elle se fait toute seule. Elle se fait toute seule. Parce que la vie est très bien faite en fait. Hein. On n'a pas à vouloir quoi que ce soit. Dès qu'on veut quelque chose avec le mental, on se coupe de notre être, on se coupe de la vie, on cherche à enfermer les choses, on cherche à contrôler. Mais notre mental n'a aucun pouvoir. Notre mental est juste au service de. Donc, laissez-le, il s'agit de le laisser être au service de et arrêter de vouloir le contrôler. Et donc, laissez faire la vie, retrouver. C'est vrai qu'avec l'alimentation et le fait de pouvoir retrouver une hygiène alimentaire, de retrouver les aliments physiologiques, de pouvoir nettoyer ce corps à un moment donné, c'est même pas le vouloir avec sa tête. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sentent que c'est un élan, que c'est une demande, quelque chose qui les tire, qui les pousse à l'intérieur, qui sentent bien que ça va plus comme ça, qu'il y a quelque chose qui a envie de se faire autrement, quoi. Donc c'est quelque chose qui se fait tout seul. On le sent bien. Donc c'est permettre au corps de retrouver son processus d'auto-guérison, c'est permettre à notre être de retrouver son propre pouvoir, de laisser faire la vie. La vie, elle est juste parfaite. Alors, si j'ai bien compris, ce sont vos émotions, Marie. Alors, oui, mais alors là, du coup, j'ai perdu le fil, donc... Donc, et le développement ne se fait pas en une seule fois avec une seule clé, ce développement est infini. Oui, bien sûr, le développement est infini. C'est même pas, on peut même pas parler de développement en fait. C'est, moi je parle d'épanouissement. C'est vraiment quelque chose qui arrive de l'intérieur et qui se fait. En plus de ça, comme la vie nous aime et qu'elle nous apporte toujours ce qu'on est en capacité à intégrer, à vivre, ça se fait en douceur, quoi. Et on s'agrandit. Et comme notre être est infini, ben c'est à l'infini. Merci pour la belle fleur que tu es. Merci Véronique. Donc oui, une renaissance tout autre, une vibration d'amour tout simplement, d'où la grande difficulté à raisonner avec cette société et plus largement avec le monde. Et oui, le monde nous demande sans arrêt d'avoir des objectifs. Et c'est ce que je disais dans une précédente émission. Voilà, à un moment donné, rentrer dans des programmations pour cet été, par exemple, ça a été tout un exercice. Oh, comment je fais pour réarticuler ça avec le vivant, avec la vie, quoi, hein, pour pas m'enfermer, pour pas. Et puis, comme par magie, ben, effectivement, les choses, elles se sont faites. Voilà, les choses sont arrivées à moi et ça s'est fait vraiment de façon très fluide. Alors, ceci qui compte, c'est ce que l'on fait de ce qui nous arrive dans la vie. Oui, le problème, c'est que je ne trouve pas en moi les ressources pour transmuter tout ce qui me fait mal et qui me vient de l'extérieur. Alors, Julie, tu n'as pas à trouver en toi les ressources pour transmuter. Là, c'est une partie de toi qui veut. Tu as juste à accueillir ce qui est là et laisser faire. Ça veut dire, c'est simplement prendre. C'est peut-être la seule décision que ton mental peut faire, accepter de ressentir, accepter de te laisser traverser par tes émotions. Parce qu'en fait, la seule dimension de toi qui transmute, c'est l'amour. L'énergie d'amour transmute tout ce qui ne lui ressemble pas. Mais l'énergie d'amour passe par le même canal que les émotions. Si tu te coupes de tes émotions, si tu refuses de les ressentir, tu coupes le canal par lequel passe l'amour. À partir du moment où tu acceptes de ressentir tes émotions, eh bien tu laisses le passage à l'amour et c'est l'amour qui va se charger de transmuter. Donc tu n'as pas à vouloir chercher avec ton mental les ressources pour transmuter. Il te suffit simplement d'accepter de ressentir et ça va se faire tout seul. Mais c'est vrai qu'au début, quand ça fait longtemps que nous sommes coupés de la vie en nous, coupés de nos émotions, eh ben c'est douloureux. Ressentir, c'est douloureux. Au départ, quand j'ai vraiment ouvert ce canal à l'intérieur, mais c'est pour ça qu'il ne peut s'ouvrir aussi que progressivement, j'avais l'impression que l'amour œuvrait comme un karcher à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que je dis aussi qu'on a une très très mauvaise représentation de ce qu'est l'amour. L'amour n'est pas tout doux. Il peut être aussi. Il est aussi puissant que la vie. L'amour et la vie, c'est la même chose de toute façon, c'est la même énergie. La vie est amour. Et regardez dans la nature la puissance de la vie, la puissance de l'amour. Et comment c'est en mouvement permanent et comment ça peut être doux, oui, mais aussi violent, chaotique. Donc. Oui, c'est accepter de ressentir, Julie. Accepter de te laisser traverser par tes émotions, même si elles font mal. Si tu n'y arrives pas, et qu'il y a une partie de toi qui arrive et qui vient te juger en disant, mais alors, j'arrive pas à me laisser ressentir mes émotions, et que tu commences à te juger, alors. Observe cette partie de toi qui te juge et accueille-la. Cette partie de toi qui te juge, elle a aussi le droit d'exister. En fait, rien n'est à juger. Si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Tu peux te juger et observer qu'il y a une partie de toi qui te juge et accueillir cette partie-là. En fait, on peut se mettre en métaposition tout le temps. Observer ce qui est et simplement dire « Ok, j'observe que et j'autorise cette partie qui arrive là à exister. » Et quand on autorise les parties qui arrivent, les parties de soi qui arrivent à exister, eh bien à ce moment-là, on se connecte avec notre source d'amour. Et c'est l'amour qui va simplement transmuter cette partie. Si cette partie-là est autorisée à exister, alors elle va s'apaiser. Et c'est comme ça que ça se transmute au fur et à mesure, petit à petit. Et donc, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. C'est ce que tu empêches de passer par l'intérieur, qui passe par l'extérieur. Et quand c'est empêché de passer par l'intérieur et que ça passe par l'extérieur, eh ben ça revient décuplé par l'extérieur. Donc, en fait, Si tu acceptes de ressentir, parce qu'une émotion, c'est juste l'expression d'une qualité, d'une valeur, d'une ressource qui tente de s'exprimer et que tu retiens, que tu empêches. Et les émotions qui font mal, ce sont pas les émotions qui font mal, c'est notre, comment dire, notre résistance à l'émotion. Plus on contrôle nos émotions, plus on souffre. Et c'est ça que c'est notre résistance à l'émotion qui nous fait souffrir. Et plus l'émotion va se rebeller, plus elle va nous arriver par l'extérieur avec des situations, des relations, des personnes, des situations qui vont nous arriver de l'extérieur et de façon de plus en plus violente, de plus en plus violente, comme pour nous dire, alors tu te réveilles, tu ouvres, tu ouvres. Et quand on commence à ouvrir à l'intérieur, alors ça reprend sa juste place. Schizophrène veut dire fendre l'âme. On constate effectivement les personnalités multiples chez la plupart des humains. Ouais. Oui, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être schizophrène pour avoir différentes parties dont nous sommes coupés, hein. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans les sous-personnalités. Et l'idée, c'est vraiment d'accueillir ces différentes personnalités ou sous-personnalités. C'est vrai que chez les schizophrènes, ces parties, elles sont vraiment mais clivées et emmurées. C'est difficile de ne pas être dans le mental. On n'a pas à chercher à ne pas être dans le mental. Comme je le disais, notre mental nous est bien utile. Chercher à ne pas être dans le mental, c'est comme chercher à pas respirer. Foutons-lui la paix à notre mental. J'ai envie de dire. C'est à un moment donné, on peut observer que le mental s'exprime beaucoup. Et moi, j'aime bien dire, mais quand vous voyez comme ça qu'il y a une partie de vous là qui est un petit peu exubérante, entrez en dialogue avec cette partie, comme si c'était une personne. Et adressez-lui des mots d'amour surtout. Donc là par exemple on est dans le mental quand on écrit un commentaire. Ben, voilà exactement quand je vous parle. Et je suis aussi dans mon mental. J'ai besoin de mon mental pour vous exprimer, pour exprimer. Et donc le mental n'a rien de négatif. Le mental, il a toute son utilité quand il est relié en plus. Quand il est au service de notre être, quand il est au service de l'amour, qu'il est relié, ouais, qu'il est relié, tout simplement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, quand on commence véritablement à parler de cœur à cœur avec une personne, notre mental s'apaise d'abord, la parole devient beaucoup plus douce, beaucoup plus lente, beaucoup plus profonde, et que très peu de mots suffisent pour exprimer ce qu'on a besoin de dire. Et quand on commence vraiment à être dans cette conscience-là, et à s'exprimer à partir de notre cœur, on dit que la parole devient incarnée. Alors, et le spirituel, quelle est votre pratique au quotidien? Merci Mariam, je vous suis depuis les débuts. Les pratiques spirituelles. Alors ça, c'est aussi de la belle nourriture pour comment dire, pour notre mental malade, je vais dire, hein. C'est aussi, il y a des personnes qui pensent que avoir une pratique spirituelle, c'est important. Mais tout est pratique spirituelle. Ma pratique spirituelle, moi, c'est la pratique de l'instant présent. Et en fait, une pratique spirituelle, pour certains, ça va être de la méditation, pour d'autres, ça va être le yoga, pour d'autres, ça va être, comment dire, le tai chi, le qigong, la respiration, enfin on peut avoir plein de pratiques qui vont nous donner bonne conscience, c'est-à-dire oh, bah tiens, j'ai fait ma pratique aujourd'hui, c'est bien, je vais pouvoir continuer à être telle que je suis d'habitude et à rien changer dans ma vie. une pratique spirituelle, elle nous permet de faire l'expérience de l'être. Et cette pratique doit nous permettre de une fois qu'on a fait l'expérience de l'être, eh bien de nourrir cet être et de pouvoir faire vivre cet être de façon plus récurrente dans notre vie. C'est-à-dire que si on se limite à faire vivre notre être pendant les pratiques spirituelles, et uniquement pendant ces pratiques spirituelles, ben je vois pas bien à quoi ça sert, quoi. L'idée, c'est de pouvoir partager cet être avec les autres, et dans sa vie quotidienne, à chaque seconde de sa vie. Donc, si vous avez envie de faire une pratique spirituelle, faites une pratique spirituelle, mais moi, ma pratique spirituelle, c'est l'art de l'instant présent et me connecter avec l'instant présent, avec cette énergie de vie, d'amour, avec mon être profond, avec mon être supérieur, avec le divin. Ça se fait dans n'importe quel acte de la vie quotidienne. Ça se fait pendant que je suis en train de vous parler, pendant que je vais me balader dans la nature, pendant que je fais la vaisselle, pendant que je balaye, pendant que je travaille. Voilà. Vous savez, quand on écoute les témoignages des personnes qui ont vécu des expériences d'éveil, elles vous disent pas j'ai pratiqué toute ma vie et un jour j'ai été éveillée. En général, l'éveil, une expérience d'éveil, ça tombe dessus. Vous l'avez pas prémédité. Souvent, ce sont des gens qui n'avaient jamais eu d'expérience ou de pratique spirituelle aucune. Et c'est pas parce qu'on a une pratique spirituelle que ça va nous éveiller. Souvent, la pratique spirituelle, elle est comment dire elle est dirigée par notre mental, c'est notre mental qui veut, parce que notre mental veut changer. Donc c'est quelle est la partie de vous qui veut avoir une pratique spirituelle? Est-ce que c'est un élan? Ou est-ce que c'est votre mental qui veut avoir une pratique spirituelle pour nourrir une bonne image de vous? C'est vraiment des questions que je vous invite à vous poser, quoi. Après, je veux dire, chacun est libre de faire tel qu'il l'entend. Il y a eu des époques où j'ai eu des pratiques, notamment cette pratique de respiration consciente, et qui était une forme de méditation, mais que j'ai incorporée dans ma vie à chaque seconde de ma vie pendant 10 mois. Chaque respiration que je faisais, elle était consciente. Alors mes respirations s'étaient agrandies. Chaque respiration durait plus longtemps, était plus profonde, elle était ventrale. Et à chaque respiration, je me nourrissais de l'énergie pranique, en conscience. Voilà, puis un jour, j'ai plus eu besoin de ça, ça s'est arrêté tout seul, je l'ai même pas décidé. Un jour, je me suis aperçue que j'avais arrêté ça. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. C'est mourir à soi-même. Oui, accepter de mourir à soi-même. C'est accepter de se séparer de notre vision étriquée. Chaque jour, on s'agrandit. Accéder à notre soi véritable, à notre véritable nature, c'est vraiment à se laisser mourir en fait, à chaque seconde. Se laisser mourir à tout ce qu'on sait, à tout ce qu'on savait. C'est vraiment accepter de ne plus rien savoir. C'est toute la théorie, tout ce qu'on a appris, toutes ces formations qu'on a faites, etc., ça ne sert à rien. À rien dans l'instant présent, ça ne vous sert à rien. Dans l'instant présent, on a tout ce dont on a besoin dans l'instant présent. On cherche à se rassurer avec des diplômes, avec des qualifications, avec. On peut avoir l'élan parce que par curiosité, par envie de connaître la vie, mais il y a beaucoup de gens comme ça qui passent leur vie à aller se former. Mais si ça vous coupe de l'amour, si vous oubliez d'aimer, à quoi ça vous sert tout ça? À quoi ça vous sert? Et donc, en tous les cas, c'est vraiment ça que j'ai compris. Je dis pas qu'il faut arrêter d'aller apprendre, mais quelle est la partie de soi qui veut absolument apprendre? Toujours la même chose. Alors, j'ai déjà réussi à lâcher prise, mais ça ne dure jamais très longtemps. J'aimerais que ce soit 24 heures sur 24. Lol. Ça veut dire quoi, lâcher prise? Lâcher prise, eh ben, c'est tout ce que je viens de vous dire, en fait. C'est accepter de ne pas savoir, c'est accepter de ne pas contrôler, c'est accepter de ne pas vouloir, c'est accepter de ne plus avoir d'objectif, c'est accepter de ressentir, simplement, de ressentir ce qui est là, de ressentir. Derrière la course à l'identification, il y a la crainte de la vacuité, de l'être, de la présence silencieuse. Oui, c'est vrai. Ça rejoint ce très merveilleux texte prononcé par Nelson Mandela, qui s'appelle De la peur, où il dit que finalement, ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas nos côtés sombres, mais c'est notre propre lumière. Et effectivement, enfin, moi, je sais que pour moi, c'est tellement vrai, tellement vrai. Et je ne peux pas dire que j'en sois complètement sortie, quoi. Mais la lumière fait peur. La lumière fait extrêmement peur. Bah oui, parce que c'est l'inconnu. Et puis c'est l'infini. Donc ça nous renvoie aussi à quelque chose de l'ordre de la mort, quoi. Et à la dissolution de notre ego, de notre partie matière qui, elle, veut rester en vie, a besoin de sécurité, de protection. Donc voilà, donc il s'agit d'apprendre à concilier ces deux parties, matière et lumière. Si on est dans l'être, on continue à ressentir des émotions. Oh oui. Mais parce que l'émotion en elle-même, elle n'est pas douloureuse. L'émotion, elle est là. L'émotion, elle est là, elle est accueillie et elle est transmutée immédiatement. Donc il y a quelque chose quand on est dans l'être, ça ne nous empêche pas de traverser des épreuves. Quand on vit un deuil, qu'on a perdu un être cher, un enfant, un compagnon, un parent, on traverse. Mais c'est plus du tout dans la même conscience, c'est plus du tout dans la même posture, je dirais. Donc c'est très différent. Mais les émotions, c'est la vie. Les émotions, c'est l'expression de l'amour, c'est l'expression de nos qualités d'être et qui ont besoin de s'épanouir, de s'agrandir indéfiniment. Et comme nous sommes infinis, ben les émotions, elles sont infinies. Mais on ne les vit plus du tout de la même façon. Ça n'a plus rien à voir. Je le répète, ce qui nous fait souffrir, c'est notre résistance aux émotions. Mais l'émotion en elle-même, elle peut être inodore, indolore, inodore. C'est notre ego qui ressent les émotions. C'est pas notre ego qui ressent les émotions. Les émotions, elles peuvent être empêchées par notre ego, par notre mental, par nos peurs en fait. Elles sont empêchées parce qu'elles sont considérées comme dangereuses puisque tout petit, on nous a appris que exprimer telle ou telle émotion, c'était mal, c'était pas bien, c'était nul. Donc on s'est coupé très tôt de nos émotions. Et c'est ça qui nous structure à l'envers, en fait, hein. Pour la méditation, j'ai toujours l'image du moine bouddhiste en position de lotus intégrable sur son temple, lol. C'est vrai que la méditation, j'aime bien prendre cette image aussi parce que j'irais presque avoir une pratique spirituelle. Qui est la méditation, par exemple, je dirais que être tout amour connecté avec l'être et le divin, quand on est tranquillement assis chez soi dans son canapé ou sur son coussin en position de lotus, je dirais que c'est quelque chose de facile. je veux dire, le challenge, c'est continuer à être dans cette même position d'amour dans le monde, en confrontation avec la vie, avec les autres. Là, c'est autre chose, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que les pratiques spirituelles peuvent aussi être une façon de fuir le principe de réalité, une façon de fuir des parties de soi qui sont difficiles à accepter. Donc, ouais, quelle est la partie de vous qui veut avoir une pratique spirituelle? Toujours la même question. L'extérieur est le reflet de mon intérieur, et donc si les gens m'humilient régulièrement, c'est qu'ils me montrent en fait que le désamour que j'ai de moi-même. Exactement. Toutes les personnes que nous rencontrons sont là pour nous montrer comment on se traite et nous montrer les parties de nous que nous avons à ouvrir, à épanouir. Ça sert à rien de faire des reproches ou de culpabiliser les autres. C'est comment on arme la main de l'autre pour venir nous flageller et juste nous montrer comment on se traite soi-même. La vie nous aime, en fait, elle nous envoie. L'amour prend tous les visages pour communiquer avec nous. Et donc, si vraiment on veut pas l'entendre, eh bien, il va parfois prendre le visage de la violence. Nous sommes co-créateurs des situations que nous vivons. C'est vrai, mais dans la vie de tous les jours, on est tellement habitué au présenter son ego que nous-mêmes et la société fonctionnent comme ça. Et si on leur dit « je suis vide », le silence incarné. On n'a rien à dire en fait. Vous savez, la meilleure posture, c'est d'attendre que les gens vous posent des questions. Et moi, finalement, c'est souvent la réflexion que je me fais quelque part. Et c'est pour ça que je suis contente de ce chat avec une interaction, parce que finalement, moi, dans le fond, j'ai rien à dire. Par contre, si on me pose des questions, je peux être un puits sans fond. Et il y a quelque chose qui se met tout seul en mouvement, quoi. Mais ça, c'est le pied absolu, en fait, hein, d'aussi pouvoir laisser l'espace pour que l'autre arrive jusqu'à soi avec toute la liberté de poser les questions. On a... Le contrôle, notre façon de contrôler, peut se manifester dans l'expression justement de vouloir dire les choses comme si on avait quelque chose à prouver, quelque chose à donner, à... En tous les cas, moi j'ai vraiment appris à me taire quand on ne me pose pas de questions. Et il y a quelque chose de beaucoup plus juste qui se met en place. C'est tout l'espace de la relation, en fait, qui s'ouvre et qui permet un ajustement entre les personnes. Voilà, alors je vois que le temps... le temps passe. Alors, notre carte d'identité n'est pas représentative de notre vraie nature. Du coup, à la place de notre nom, prénom, âge, photo, d'identité, il devrait juste y avoir de marquer vide. Oui, mais en même temps, je veux dire, tout ce qui existe sur la Terre est à son utilité. Mais il s'agit de ne pas s'identifier à ces aspects. Moi, je ne rejette rien. Mais l'idée, c'est de ne pas s'identifier. Il s'agit de... L'être humain a voulu trouver des codes et des repères pour vivre ensemble. Et ces choses, ben, je dirais que Au fur et à mesure que l'humanité évolue, elle s'ajuste, elle change. On voit bien qu'en ce moment, notre société arrive à un point d'étouffement et où les choses, on n'a même pas besoin de vouloir les changer, elles se changent d'elles-mêmes. On voit bien comment il y a plein de nouvelles initiatives qui se mettent en place. La vraie révolution, c'est celle qui se fait dans l'invisible, dans le subtil. Il y a un monde parallèle qui a commencé à exister. Et le vieux monde, il est en train de s'écrouler tout seul, en fait. Hein. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais comme il y a un nouveau monde qui est déjà en marche, il existe déjà ce nouveau monde. Et bah, lorsque l'autre, il va définitivement s'écrouler, eh bien, il y aura déjà celui-là qui fonctionne. Ok. Oui, je prends ce qui résonne en moi, bien sûr. Chacun prend ce qui résonne en lui. Alors, j'avais envie de vous parler quand même pour terminer cette émission, parce qu'il est 21h15, des choses que je propose pour cet été. Donc, je l'avais annoncé déjà, et donc, quand vous allez sur mon site internet, dans la rubrique actualité, ben vous allez pouvoir découvrir différentes propositions tout au long de l'été. Mais finalement, quels que soient les stages que je propose et les noms que je leur ai donnés, je transmets toujours les mêmes choses, en fait. Hein, toujours en lien avec... pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de transmettre cette loi d'amour. Et la meilleure façon de la transmettre, eh bien, c'est de la vivre pour moi-même. Et de la partager avec les autres, tout simplement. Donc voilà, donc bah, début juillet, je propose stage lecture intuitive, premier niveau, deuxième niveau. Je propose aussi des constellations de lettres, l'alliance intérieure, qui est constellation de lettres. J'aime bien cet outil parce que c'est vraiment très ludique, interactif et c'est assez puissant. Voilà, donc c'est autour de la loi d'amour, de l'intuition, du langage de la vie et de comment se réconcilier vraiment avec, avec nous-mêmes et d'entrer dans cet amour inconditionnel. Et voilà, tous mes stages sont proposés avec une nourriture frugivore parce que j'aime bien pouvoir proposer, d'abord parce que je le suis frugivore, mais c'est aussi l'opportunité d'aller vers... une autre forme de nourriture, de s'alléger dans la matière, de pouvoir se mettre en condition d'accompagner cette libération émotionnelle, parce que c'est vrai que quand on fait un travail de libération émotionnelle et qu'on s'empresse d'anesthésier en se remplissant de nourriture et de glu à l'intérieur, ben c'est comme si on anesthésiait tout le travail, donc pouvoir proposer une nourriture légère qui peut accompagner voire intensifier la libération émotionnelle, pour moi c'est important, donc je propose une nourriture frugivore. Donc voilà, et puis très prochainement je propose des ateliers, donc bah, la semaine prochaine il y a un atelier que j'anime, donc c'est un atelier coaching, j'appelle ça coaching, accompagnement. Vivre en amour avec la vie, où vous pourrez venir, comment dire, poser très précisément vos questions. C'est en libre participation. Sinon, je vais recevoir Alain Scoï dans un atelier qui s'appelle Décoder le langage de la maladie. Donc, si vous êtes sujet à des pathologies, à des maladies et que vous avez envie de comprendre plus particulièrement le langage, qu'est-ce que vient nous dire notre corps, notre être à travers ces symptômes. Voilà, il y a cet atelier et puis l'atelier de Nelly Grosjean, atelier questions-réponses aussi début juin. Donc vous avez tout sur mon site internet rubrique actualité. Voilà. Eh bien Alors, oui, il y a Johan qui dit que, en tous les cas, je viens de comprendre que réaliser le soi n'est pas si difficile que ça. Oui, en fait. C'est d'autant pas difficile que ça ne peut pas être un objectif, en fait. Plus on a l'objectif de ça, plus on se coupe de soi, en fait. Donc, c'est d'une simplicité enfantine. En fait, c'est tellement simple qu'on a l'impression que c'est inaccessible. Mais il n'y a pas d'objectif à réaliser. Il n'y a pas à réaliser notre soi. Il n'y a pas à vouloir. Dès qu'on veut, on se coupe de soi. Donc, c'est simplement être qui nous sommes, accueillir ce qui est là, arrêter de se prendre la tête et s'accueillir pleinement dans tout ce qu'on est et vivre simplement, simplement, dans la légèreté. C'est j'ai l'impression d'être passée de l'autre côté du miroir ou de l'autre côté du voile, je sais pas, enfin, il y a quelque chose et quand je vois dans tous les mécanismes dans lesquels j'étais, les prises de tête, quand je vois la simplicité dans laquelle je suis aujourd'hui et dans laquelle fonctionne la vie, en fait, je me dis, ben, que de chemin parcouru, effectivement. Alors, et oui, lol, c'est le mot ultime. Tout était là, sous notre regard. On ne le voyait pas auparavant, car nos cataractes et gènes détournés effiltraient notre regard. Et oui, en fait, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et je finirai là-dessus. Donc, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, un merveilleux dimanche, et je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles aventures. Et pour ceux qui veulent me rencontrer en consultation individuelle, je suis à votre disposition. Bonsoir à tous et à très vite.